faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu par Benjamin Brion. Bonjour Benjamin.
Bonjour Florent.
Merci de ton accueil. Benjamin, tu es le cofondateur de Moodwork, que tu as créé depuis 2018. Tu nous accueilles aujourd'hui dans tes chouettes locaux à deux pas du boulevard Haussmann, dans le quartier Opéra.
Ça fait.
Plutôt central, bien situé, enfin franchement agréable. Et Moodwork commercialise donc depuis 2018 un service à destination des entreprises pour que chaque salarié puisse gérer son propre bien-être.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. On va y revenir de toute façon. C'est toi le spécialiste. Et avant de continuer, je voulais remercier Julien Brézin, qui est le directeur général de Great Place to Work, qui nous a mis en relation tous les deux. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'interview de Julien que j'ai réalisé dans l'un de mes épisodes précédents.
Merci Julien.
Ouais, merci beaucoup à toi. Alors pour commencer, Benjamin, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, ton histoire. Et classiquement, c'est ce que je fais à peu près dans tous mes épisodes. Avant Moodwork, qu'est-ce que tu faisais ?
Eh bien, tout d'abord, merci. Hein, je suis ravi d'être avec toi et avec vous pour échanger. Moi, j'ai un parcours assez classique où j'ai fait une école de commerce. Et il se trouve que j'ai eu l'idée de monter Moodwork pendant cette école de commerce.
D'accord.
Et donc, avant Moodwork, je n'ai fait que des stages en finance, figure-toi.
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux chercheurs pendant mes études. Un qui s'appelle Christophe Hague, qui est docteur en sciences comportementales, spécialisé sur la gestion des émotions. Et une Belge qui s'appelle Moira Mikola-Jack, qui est spécialisée sur la prévention du burn-out. Et pendant des échanges avec eux, en fait, on n'était pas assez passionnés tous les trois du sujet de la gestion des émotions, qui était un sujet à l'époque très peu connu. Hein. Mmh. Je te parle de ça en 2016-2017, donc la gestion des émotions, c'était encore au balbutiement. Et on a souhaité en fait créer un outil à l'époque qui permettait de comprendre son émotion à un instant T et de pouvoir ensuite avoir des conseils pour la réguler. Donc on te donnait ton émotion parmi les émotions primaires et secondaires et ensuite on te poussait des conseils que ce soit de lecture, de nourriture, etc. pour la réguler.
Ok, alors avant, j'ai envie de rembobiner parce qu'on est en 2016-2017, donc tu as fait une école de commerce, tu fais des stages dans le monde de la finance, on est loin de l'émotion.
Justement, on apprend beaucoup sur, ouais. Justement, sur la difficulté aussi dans ce monde-là à exprimer ses émotions et à devoir faire souvent poker face, en fait.
D'accord, donc, t'as pas fait d'études psycho, d'études RH?
J'en ai refait après.
C'est intéressant, t'as refait des études à l'issue de ton diplôme?
J'ai refait des études, en 2021, donc il n'y a pas très longtemps, où j'ai fait un diplôme universitaire à la Cato de Lille en psychologie du travail pour valider toutes mes connaissances que j'avais apprises de manière empirique avec Moodwork.
Ah, intéressant. Donc, tu as consolidé effectivement tout ce que tu as aussi appris effectivement. Exactement. Sur le terrain.
Je voulais me donner un peu plus de crédibilité aussi par rapport à nos experts que nous, on a en interne avec nos docteurs en psycho et nos psychologues diplômés.
Ok. Ça doit être chaud de diriger une entreprise.
Ouais, j'ai pas beaucoup dormi.
Et à côté, de passer un diplôme.
C'était une année compliquée, une année et demie assez dense, ouais.
Ouais. Même s'il y a des choses, j'imagine, en virtuel, etc.
On allait souvent.
Souvent sur l'île.
Sur l'île, et du coup, c'était les cours du soir, ou alors c'était parfois toutes des journées entières. Donc, c'était compliqué de faire les deux.
Donc, dans le TGV Paris à Arras-Lille, tu le connais
exactement.
Très, très bien.
Ouais, très bien.
Ok,
ouais.
D'accord. Donc, alors, on vient effectivement à cette rencontre avec tes futurs associés.
Exactement, ce sont mes associés aujourd'hui, avec aussi un quatrième qui s'appelle Léopold Denis. Et donc, on a créé en 2017 une première application qui s'appelle Dr Mood.
Ok.
non Dr Good comme comme Simes, mais Dr Mood, qui a été écoute classée en 2017 la première app la plus téléchargée sur la santé en France.
Waouh.
Qui permettait du coup de détecter son émotion à l'instant T, avec un petit docteur qui a une effigie très marrante. Application gratuite. Donc, d'accord, on a généré aucun revenu avec cette application.
Okay. Vous avez fait plaisir. On s'est fait plaisir. Et vous avez appris beaucoup, j'imagine.
Ouais. Et on a validé, en fait, aussi une appétence, en fait, des personnes sur le sujet. Et fort de cette expérience, on a voulu, en fait, l'adapter. C'était au départ notre idée au monde du travail pour former les managers, notamment, à comprendre les émotions, donc inter et intra, donc les émotions d'autrui et aussi les siennes. Et en fait, petit à petit, en construisant notre outil, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas parler que des émotions et que très vite, on était obligé de dériver sur d'autres sujets, donc sur la gestion du stress, sur l'équilibre vie pro-vie perso. Et donc, en fait, tout ce qui englobe la santé mentale et plus largement la qualité de vie au travail. Et c'est comme ça qu'est né Moodwork, avec vraiment la volonté d'accompagner les salariés dans leur quotidien,
d'accord,
dans leur démarche de santé mentale et de bien-être au travail.
Ok. Concrètement, Moodwork, je peux l'utiliser quand je suis salarié. Est-ce que mon entreprise doit l'avoir racheté avant? Comment est-ce que ça fonctionne effectivement pour que tout à chacun puisse bénéficier? Et on viendra après sur ce que propose Moodwork. Ouais.
Concrètement, là, on passe par les entreprises, parce que l'idée c'est de venir proposer Moodwork dans la politique de qualité de vie au travail ou de prévention des risques psychosociaux des entreprises. Donc Moodwork vient être une brique sur le volet individuel et donc proposer aux collaborateurs de pouvoir agir sur leur situation aussi en toute indépendance du management. Donc oui, nos clients sont principalement les RH et les DRH. Nos utilisateurs sont finalement tous les salariés dans une entreprise, sachant qu'en plus, on adapte notre outil au métier. Donc, d'accord, on a créé différentes versions de Moodwork pour notamment les employés de bureau, les ouvriers techniciens, le personnel soignant dans les hôpitaux. Et là, on commence à travailler notamment sur une version pour la fonction publique territoriale.
Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a une version pour les managers?
Oui, il y a une version pour les managers et, d'accord, même pour les membres du COMEX.
Ok. Est-ce qu'il y a une version pour les RH?
Il y a une version pour les RH également. Oui. Oui.
Tu as pensé à la fonction RH?
Oui, qui en a grand besoin depuis le Covid, qui a beaucoup souffert de la période du Covid et qui continue à souffrir. Donc, on pensait qu'il y aurait un peu de répit pour la fonction RH et on voit que pas du tout, en fait.
Et comment vous arrivez à personnaliser? C'est vraiment lié à un profil ou est-ce qu'il y a un outil d'IA qui détecte mon profil et qui, selon mes habitudes, mon fonctionnement, va me proposer telle ou telle
chose? Non, c'est vraiment sur du déclaratif. Et ensuite, on a des outils d'auto-évaluation qui sont adaptés par métier et qui te permettent ensuite de bien comprendre tes besoins, tes attentes et aussi tes problématiques que tu pourras résoudre ensuite.
Et de les personnaliser par rapport à mon contexte
et les personnaliser exactement par rapport à ton contexte, mais aussi au contexte de l'entreprise. Okay. C'est aussi hyper important.
Ok, alors tout à l'heure, dans l'intro, j'ai mal pitché Moodwork, en tout état de cause, donc je me suis pris un petit taquet, mais si tu pouvais effectivement repitcher Moodwork et nous expliquer concrètement le sujet et puis le sous-jacent, parce que j'ai pas mal de questions autour de ça, autour de la santé mentale.
Bien sûr. Non, c'était bien pitché, mais c'était comme ça qu'on le pitchait, effectivement, en 2018. Okay. Maintenant, tu vois que... Je ne sais pas si tu l'as senti, si nos auditeurs l'ont senti, mais le sujet de la santé mentale est assez nouveau, le terme. Enfin, on parle de ça depuis 2-3 ans.
Avant, je pense que depuis le Covid, on en parle beaucoup plus.
On en parle beaucoup plus. Avant, on parlait plus de la qualité de vie au travail. Mmh. Et avant, on parlait des RPS.
Quand j'étais RH, on parlait de RPS.
Les termes ont vraiment évolué. Mais ce qui est pas si mal, puisque finalement dans la qualité de vie au travail c'était un peu fourre-tout. La santé mentale, on arrive bien à percevoir santé mentale au travail, de quoi on parle. Donc Moodwork, effectivement, on propose une application web et mobile qui permet d'accompagner les salariés ou les agents du coup dans leur démarche de santé mentale et de bien-être au travail. Pour ce faire, concrètement, on propose à chaque collaborateur d'avoir accès à une application unique sur laquelle ils vont retrouver dans un premier temps des outils d'auto-évaluation qui leur permettent de comprendre leur situation de bien-être au travail ou de mal-être au travail. Ces outils d'auto-évaluation nous permettent notamment de pouvoir comprendre comment un salarié va gérer sa gestion des émotions, sa gestion du stress, son équilibre vie pro-vie perso. Ça va nous permettre aussi de détecter des personnes potentiellement à risque, d'accord, d'épuisement professionnel ou de burn-out. Et donc ces personnes-là, on va réussir à les capter et à les prendre en charge avant qu'elles se mettent, notamment en arrêt maladie.
Okay.
Et en arrêt maladie long, donc ce qui coûte du coup cher et qui est très embêtant pour les entreprises et surtout pour les collaborateurs. Dans ces outils d'auto-évaluation, on fait aussi des focus parfois sur des thématiques. Donc on va avoir aussi d'autres outils sur par exemple le sommeil, sur la gestion des émotions, les niveaux de degrés de différents degrés de stress aussi. Et ensuite, dans le deuxième outil qu'on propose, on va proposer des outils d'apprentissage et d'e-learning, où là, en fonction de ton profil et en fonction des différentes réponses que tu auras apportées aux outils d'auto-évaluation, on va te pousser différents parcours d'e-learning avec des tutoriels vidéo à suivre, des exercices de mise en situation, des fiches à consulter, des podcasts à écouter, aussi des conférences à suivre. On crée tout le contenu en interne avec notre pôle recherche, puisque tous les outils sont créés en interne avec nos docteurs en psychologie et en sciences comportementales. Et on va traiter de plus d'une centaine de thématiques qui vont vraiment du développement personnel jusqu'à la prévention des herpès.
Ok, donc c'est extrêmement là, on est loin de Dr Mood de l'époque.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et ce que je n'ai pas dit en amont, c'est qu'évidemment aussi tous les outils d'auto-évaluation sont validés scientifiquement. Donc ils ont fait l'objet de validations par des pairs et de publications dans des revues scientifiques. Et enfin, le dernier outil un peu plus classique, mais qu'on propose aussi, c'est de l'accompagnement humain pour les salariés sur l'application. Donc ils ont accès à un panel de spécialistes qui vont du psychologue clinicien au coach jusqu'aux assistantes sociales, le tout 7/7, 24/24, dans une démarche vraiment de prévention. On n'est pas comme une ligne d'écoute ou un EAP. L'idée, c'est vraiment que les salariés puissent poser n'importe quel problème et être accompagnés pour aussi monter en compétences potentiellement. Et donc cette partie d'accompagnement humain, l'intérêt c'est aussi qu'on vient intégrer aussi les acteurs déjà présents de la prévention dans l'entreprise. Donc on peut plugger aussi sur notre partie prise en charge, le calendrier d'un médecin du travail ou d'un préventeur.
Une assistante sociale si on a la chance d'avoir ces publics-là en interne.
Ce qui permet aussi du coup de favoriser tout ce qui existe déjà au sein de la structure.
Ok, ouais, donc vous allez personnaliser quelque part le mood work au client en fonction aussi de son organisation, si c'est nécessaire. Tu as dit beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup de questions, du coup ça se bouscule dans ma tête. Je vais revenir sur un point, donc j'imagine vous garantissez l'anonymat et des données d'une personne vis-à-vis de son manager, vis-à-vis de la fonction RH, etc. Enfin, j'espère en tout cas. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, on peut détecter une personne qui ne va pas bien et avant, malheureusement, qu'elle soit en nécessité de s'arrêter. Comment vous faites concrètement ? Qui le fait ? Est-ce que c'est un outil ? Est-ce que ce sont des hommes et des femmes qui vont détecter ? Comment vous allez ? Et comment vous gérez une situation peut-être un peu d'urgence ?
En fait, les outils d'auto-évaluation, comme ils sont sur une base validée scientifiquement, si on détecte une personne qui a un score très faible et certains facteurs de mal-être qui sont détectés, là, on peut considérer qu'elle est à risque. Et ensuite, on lui pousse, notamment pour les personnes proches de l'épuisement professionnel, on pousse un deuxième bilan axé sur l'épuisement professionnel parce que souvent, il y a un phénomène de déni aussi. Donc, l'idée, c'est que...
Ça, c'est entre vous et elle. C'est-à-dire que ça ne passe pas par le service RH
ou
par...
Non, c'est vraiment anonyme. Ah, okay. C'est vraiment tout à fait anonyme jusque-là. Et ensuite, si on détecte que la personne est vraiment à risque avéré, là, on lui propose deux options. On lui propose soit de lever l'anonymat et de rentrer en contact avec une personne interne à la structure. Donc là, ça peut être le médecin du travail ou un préventeur ou un RH. Ce qui arrive très peu souvent. D'abord, généralement chez nous. Soit la personne décide de rentrer en contact directement avec un psychologue clinicien chez nous. Donc là, l'anonymat est conservé, puisque la structure ne sera pas au courant. Elle sera juste au courant qu'il y a quelqu'un qui a eu une situation de mal-être avérée, mais qu'elle est prise en charge.
D'accord. Sans citer son nom.
Sans citer son nom, évidemment, on respecte l'anonymat.
Ok. Et comment est-ce que tu sélectionnes ou vous sélectionnez les psychologues, les spécialistes qui travaillent avec Moodwork ? Ils sont salariés de Moodwork, ils sont indépendants et ils travaillent avec Moodwork. Comment est-ce que vous les sélectionnez, les choisissez ?
Alors, on a une partie des psychologues qui nous accompagnent, qui sont salariés.
D'accord.
Qui permettent notamment de répondre sur Moodwork. Il y a aussi un chat avec des psychologues en live. Donc, on peut directement poser ces questions aussi quand on fait son bilan ou quand on fait un programme de développement personnel. Donc, ça, c'est tous les jours de 9h à 18h. Et ensuite, ils ont la possibilité aussi de prendre rendez-vous avec nos psychologues salariés. Et ensuite, on a un réseau de psychologues, de coachs, d'assistantes sociales qui travaillent avec nous en freelance. Donc, on leur fait passer des tests techniques et des entretiens. Et surtout, on les évalue constamment aussi sur la prise en charge qu'ils font avec les collaborateurs. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est qu'on demande aussi beaucoup de feedback aux utilisateurs pour savoir comment a été leur prise en charge, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, etc. On fait un vrai suivi derrière pour toujours améliorer en fait aussi notre expérience et surtout l'accompagnement qui est proposé.
Ok.
Et donc oui, on les trie sur le volet. Oui. Maintenant, il se trouve que il y a une époque, les psychologues avaient besoin de travail et maintenant les psychologues ne courent plus trop les rues. Donc,
c'est vrai, c'est une population qui n'est pas facile à recruter.
Les très bons, oui, maintenant, ouais.
Assistante sociale, je le savais. Tu vois, j'ai interviewé sur ce podcast Joël Rioux, qui est le fondateur de Responsage. Je ne sais pas si tu connais cette structure, qui est vraiment spécialisée effectivement sur l'assistanat social. Et il me disait qu'effectivement, trouver des assistants, des assistantes sociales, parce que le métier est très féminisé, c'est pas si simple que ça, en fait.
Non. Le métier de psychologue, ça devient pareil.
Ok, intéressant. Alors, j'ai envie d'aller sur les conseils que tu pourrais donner aux entreprises. Prendre de la hauteur, de sortir de l'outil et d'aller sur ton expertise du sujet de la santé mentale. Pourquoi aujourd'hui, tu penses que la santé mentale, c'est une priorité pour les entreprises et les collectivités?
Il y a un vrai sujet déjà d'environnement macro, on va dire, ça emploie des gros mots, mais depuis le Covid, on va dire que le contexte global mondial s'est pas vraiment amélioré. On a eu quand même beaucoup de crises, de guerres qui sont arrivées, donc en fait il y a un peu un...
Et c'est pas fini malheureusement. Ouais.
Il y a un peu un dépit, mais donc ça ne concerne pas forcément les entreprises directement, mais en fait l'ambiance générale vient plomber en fait le moral des collaborateurs. À ça, on ajoute une éco-anxiété que nous, on perçoit énormément aussi chez les collaborateurs, donc qui devient un vrai sujet même d'accompagnement psychologique, c'est-à-dire la pression qu'on nous met pour devenir un bon citoyen qui coche toutes les cases de l'écologie. Donc ça, c'est une deuxième pression qui, en plus, a un impact pour le coup direct dans les entreprises.
Évitez de stationner vos SUV dans les parkings parisiens.
Exactement.
Ça peut coûter cher.
Exactement. toujours une accélération constante pour le coup du monde du travail où on en demande beaucoup plus en plus aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises quand même ont fait des plans sociaux, même dans le monde des startups on a suivi.
Oui.
Donc on demande beaucoup plus avec moins de moyens ou en tout cas humains, et donc une pression qui s'accentue.
Oui, puis on sent que depuis l'été 2023, la situation économique, elle n'est pas cata, mais elle est quand même beaucoup plus tendue qu'elle ne l'a été en post-Covid, où c'était un peu l'explosion dans tous les sens. À cause de plein de sujets.
Effectivement, il ne faut pas suivre l'indice du CAC. L'ambiance.
Alors, on enregistre le CAC est au plus haut, mais ce n'est pas forcément représentatif du PIB, malheureusement.
C'est ça. Exactement, pas du tout représentatif même. Et on perçoit vraiment ce mal-être, notamment, du coup, qui a un impact directement sur la performance des collaborateurs. Ce qui est, du coup, en fait, le sujet principal des entreprises. Pourquoi elles investissent finalement dans la santé mentale? C'est pour rendre et permettre à leurs collaborateurs d'être toujours performants. Pas toujours plus performants, mais d'être performants et surtout d'être motivés pour venir au travail, de faire bien leurs tâches, qui leur sont demandées. Donc ce que je peux conseiller aujourd'hui aux entreprises notamment, c'est de bien réfléchir à la manière dont elles vont pouvoir attaquer le sujet. Il faut vraiment voir que la prévention de la santé mentale au travail, c'est une co-construction entre d'un côté des actions collectives et des actions individuelles. Et surtout ne pas lésiner l'un ou l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on a des entreprises qui viennent nous voir, qui disent on va mettre Moodwork en place, c'est génial, mais qui du coup se dédouanent totalement sur le plan collectif.
Donc Moodwork va résoudre tous mes problèmes.
Va résoudre tous mes problèmes, mais en plus comme c'est les salariés qui le prennent en main, nous managers ou RH, on peut se cacher derrière. Donc ça c'est déjà arrivé, autant vous dire que ça n'a pas marché du tout, donc on l'a pas mis en place.
Il faut peut-être même d'ailleurs encore plus d'implication. De la fonction RH, des représentants du personnel aussi probablement sur ces sujets de santé mentale. L'outil va aider, mais l'outil n'est pas une solution magique. Enfin, comme tous les outils d'ailleurs, dans tous les sujets RH que je peux voir, il n'y a pas d'outil magique sur tel ou tel sujet.
L'outil vient vraiment compléter une démarche existante, mais une démarche aussi, on va dire, qui part déjà de l'organisation. Il faut déjà avoir des fondements sains.
Qui est volontariste,
un collectif aussi qui fonctionne. Quand je dis collectif qui fonctionne, c'est au moins où le dialogue est possible entre la direction, les managers, les organisations syndicales et les collaborateurs, et où il y a la volonté de changer et de mettre en place des choses pour accompagner les salariés. Donc effectivement, bien penser à cette co-construction entre les actions collectives et individuelles, et derrière, ne pas faire tout trop vite. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a des entreprises qui viennent nous voir parfois, mais qui sont finalement pas matures encore.
D'accord. Et donc, ça veut dire que tu es capable de refuser un client, du coup?
Disons qu'on ne va pas forcément le refuser, mais on sait que ce ne sera pas le bon timing. Voilà.
D'accord.
On ne va pas courir après.
D'accord. peut-être l'aider à améliorer un certain nombre de points avant d'aller dans des démarches supplémentaires.
Donc l'aider, ça peut être l'aider sur de la sensibilisation. Par exemple, commencer par de la sensibilisation sur les RPS ou la santé mentale au CODIR ou au CSE. Commencer par former, par exemple, des préventeurs. Parfois, on a même des entreprises qui viennent nous voir mais qui n'ont jamais fait de diagnostic RPS. D'accord. Donc ils ne savent même pas où sont les risques, etc. Donc,
vous en faites, vous, du coup? Vous avez des partenaires pour en faire?
On en fait, on a des partenaires. On en fait aussi en interne.
Vous aidez une entreprise ou une collectivité à aussi s'améliorer avant d'implémenter effectivement Moodwork?
Oui, tout à fait. On a aussi ce volet-là où l'idée, c'est aussi de pouvoir compléter notre offre qui est plutôt sur l'action individuelle, même si on remonte de la donnée après qui peut être utilisée pour le collectif. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer d'autres actions, que ce soit de formation ou d'analyse ou de diagnostic aussi aux entreprises qu'on accompagne.
D'accord, ok. Quel rôle aujourd'hui les managers et les leaders, on va dire, dans une entreprise, jouent dans la promotion de la santé mentale au travail? Parce qu'on a parlé de la fonction RH, qu'elle doit être volontariste avec les partenaires sociaux, etc. Mais les managers, je dirais les managers au sens, parce que des managers, il y en a plein. Si, j'imagine, vous accompagnez des entreprises industrielles, entre des managers qui sont au siège ou des managers qui sont dans les usines, des fois loin du siège, des fois il y a un monde, entre guillemets. Quel rôle ces managers doivent avoir dans la prévention de la santé mentale?
J'ai envie de te dire que ils doivent avoir un rôle d'ambassadeur, mais il ne faut pas non plus tout reposer sur la fonction managériale, et surtout notamment les managers de proximité qui, pour le coup, je trouve depuis quelques années, ont été vraiment pris en étau entre la direction et les collaborateurs. Et souvent, c'était la faute des managers de proximité si ça allait pas bien. Voilà. Parce que ça performait pas assez et les salariés se plaignaient parce qu'ils étaient pas assez heureux, grosso modo. Donc, la sensibilisation, c'est très important. Donc, vraiment, faire en sorte que les managers aient conscience des risques, notamment qu'ils aient conscience de pouvoir identifier des signaux faibles, de pouvoir identifier un climat ou par exemple, quand on parle de harcèlement aussi, identifier quelques mots ou comportements qui sont dans l'abus. Donc la sensibilisation est très importante. Pour faire de la sensibilisation, le plus efficace, c'est de pouvoir proposer des outils dans la durée, mais aussi de faire de la formation physique. Et donc le manager doit être à la fois, on va dire, bienveillant à l'écoute, sensible par rapport aux thématiques aussi, ce qui n'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais il faut quand même qu'ils soient accompagnés par les RH et par le CSE pour justement qu'on leur donne les bons outils aussi et surtout qu'on partage aussi, on va dire, la tâche entre différentes responsabilités au sein de l'entreprise. Ne pas tout remettre sur les managers. Ils ne peuvent pas tout faire.
Et les managers sont aussi des collabs, donc ils ont eux-mêmes accès à Moodwork.
Ouais.
Est-ce que vous visualisez ce que tu dis quelque part sur... je tempère mes mots parce que c'est fonction des organisations. Des fois, le mal-être des managers qui sont entre le marteau et l'enclume. Est-ce que vous arrivez à le mesurer, ce sujet-là, sur cette fonction spécifique de l'entreprise? Et comment est-ce que vous y répondez, du coup?
Ouais, alors effectivement, donc dans les rapports d'analyse qu'on peut identifier, qui sont globalisés et anonymisés, évidemment, mais on peut distinguer les fonctions. Donc, on peut avoir les managers, les employés de bureau, les ouvriers techniciens ou même par région. Et effectivement, quand on identifie que ce sont plutôt des managers, soit on va être dans un canal où c'est un besoin de coaching et un besoin de suivi. Donc, on peut proposer là aux managers d'avoir accès à des coachs, notamment, qui vont leur permettre de monter en compétences, d'être rassurés aussi dans leurs compétences managériales, parce que c'est souvent important. Parfois, on n'est pas assez bien formé aussi en tant que manager. Soit ça va être plus des questionnements, on va dire, perso. Et donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir rediriger vers des psychologues du travail sur, par exemple, de la gestion du stress, de la gestion des tâches, de l'organisation, ou ça peut être aussi de la cohésion d'équipe. Donc voilà, essayer d'avoir un vrai accompagnement et un suivi humain derrière. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'accompagnement humain, on a un accompagnement illimité. Si un manager souhaite être accompagné, il peut avoir une séance de coaching toutes les semaines s'il le souhaite toute l'année.
D'accord.
Oui, ce qui permet d'être dans un vrai travail de fond et de pouvoir du coup s'améliorer en continu aussi pour les personnes qui souhaitent être suivies.
Ce qui est gratuit pour lui ?
Oui.
En tant que salarié ? Du coup, c'est l'entreprise, j'imagine, qui finance tout ça.
Exactement.
Ok.
Donc ouais. C'est un vrai plus.
C'est un vrai plus, effectivement.
Pour la marque employeur, mais donc ouais. Pour la fidélisation aussi des collaborateurs.
Ouais, et c'est clair, ça montre un engagement aussi de l'employeur vis-à-vis de ses collabs. Donc
quand on
c'est
sait que, ouais, qu'une heure de coaching, c'est entre 100 et 150 euros l'heure, c'est pas rien.
Ouais, donc c'est pas rien. Depuis le Covid, on a pas mal de changements dans notre manière de voir le métier. On a reparlé de sens au travail, on a parlé de rééquilibre vie privée, vie professionnelle, de télétravail ou de travail hybride. Est-ce que tu penses, si on zoome sur ce sujet du télétravail d'ailleurs, je parle pas du full remote, je parle vraiment du télétravail. Full remote est plus marginal, enfin pour moi.
Maintenant, oui.
Ouais. On est plus effectivement sur de l'hybride. Comment est-ce que le télétravail a affecté la santé mentale des employés?
Grand sujet.
Est-ce que tu penses que ça a affecté la santé mentale des employés?
Oui, ouais, bah, déjà, non. Ça a forcément affecté la santé mentale à partir du Covid, puisqu'on a eu un changement de cadre de travail, puisqu'on s'est retrouvé de...
Qui était soudain, là.
Qui était soudain, on s'est retrouvé d'aller au bureau tous les jours, à plus y aller du tout. Donc, on a pris des... Du coup, forcément, en tant qu'être humain, on s'est mis à avoir de nouvelles habitudes, et qu'ensuite, on a dû redéconstruire parce qu'on a essayé de faire un entre-deux. Donc au départ, c'était, et même pour chez nous, tu vois, au départ, c'était un peu comme on le souhaitait. Donc il n'y avait pas forcément de règles en plus au départ. Donc il y en avait qui venaient, il y a des salariés qui venaient jamais au bureau ou d'autres qui venaient tout le temps. Donc un peu une entreprise à deux vitesses. Et je pense qu'il y a plein d'entreprises pour lesquelles c'était le cas,
oui.
D'avoir du coup des collaborateurs qui venaient jamais sur les lieux physiques de l'entreprise et donc qu'on voyait jamais. Et d'autres derrière qui venaient tout le temps et donc qui créaient une cohésion d'équipe ensemble. Donc vraiment une entreprise à deux vitesses. Donc ça, pour le coup, énorme impact en termes de santé, de sécurité, de cohésion. Plein de problèmes aussi en termes de responsabilité de l'employeur. Puisque, qu'est-ce qu'on fait si le collaborateur est en mouvement constant en fait et qu'il se balade tout autour de la France et qu'il est censé être en télétravail chez lui à son domicile. Enfin voilà, donc il y a eu plein de questions. On a vu la législation changer aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on perçoit pas encore tous les aspects négatifs que ça a eu de pas savoir où on était. On a besoin, en tant que collaborateur et même être humain, c'est avoir un cadre un peu fixe de temps en temps. Et là, pour le coup, donc c'est pour ça que les entreprises reviennent et mettent des chartes de travail en place, avec des jours limités, etc. Mais ça a quand même cassé quelque chose en termes de cohésion, en termes de même d'identification parfois des personnes à risque, etc. Il suffit que votre manager, en fait, les trois jours où vous venez sur site, lui, il soit pas là. En fait, c'est son rôle aussi d'être détecté des signaux faibles et puis d'échanger avec vous et puis de savoir comment vous allez, etc. En fait, ça se fait pas. Et puis, c'est pas en faisant une visio d'une demi-heure que ça va se régler. Donc, non, c'est aussi, ça participe peut-être aussi à l'augmentation, justement, du nombre d'arrêts maladie et justement à la dégradation de la santé mentale globale qu'on peut voir aujourd'hui.
Et là, en 2024, avec les données que vous avez, entreprise par entreprise, est-ce que vous voyez des écarts entre mesures de la santé mentale entre des entreprises qui ne font pas du tout télétravail, des entreprises qui sont, par exemple, full remote, des entreprises qui sont en hybride non réglementé, on va dire, où c'est un petit peu chacun fait sa vie, ou à contrario, des dernières situations dont tu parlais, des hybrides qui sont un peu plus organisés, structurés. Est-ce que tu vois des écarts tu peux me citer des noms, mais t'es pas obligé forcément là-dessus. Mais voilà.
On va pas. Je pense que je reviendrai sur le podcast pour te donner les indicateurs parce que justement, on les a jamais comparés ni mesurés. Ça peut être intéressant, on regardera, mais parce qu'on n'a pas forcément tout le temps toutes les infos.
D'accord.
Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que on a des facteurs effectivement de bien-être ou de mal-être différents entre, par exemple, une entreprise où les gens sont sur site tous les jours de production ou dans les usines, etc. Ou VS des entreprises dans les services où là il y a plus de télétravail, où il y a plus d'itinérants, etc. Notamment sur l'équilibre de les facteurs sur l'équilibre vie pro vie perso, sur la gestion du stress, sur l'anxiété, sur le sentiment d'être seul aussi. Il y a aussi souvent ce sentiment entre guillemets d'abandon, quoi. Et à contrario, on voit vraiment dans les facteurs de bien-être sur les entreprises qui du coup ont des collaborateurs qui sont là tous les jours, le sentiment de cohésion et donc d'appartenance aussi. appartenance à une culture. On a souvent ce facteur de bien-être qui ressort et qui ressort plus du tout chez les autres entreprises. Notamment quand on pose la question, est-ce que vous vous associez à la culture de l'entreprise? Est-ce que vous vous associez au projet de l'entreprise? Ça, c'est des facteurs qui, du coup, sont plus du tout présents.
Okay.
Ce qui est grave, du coup, si on souhaite embarquer des collaborateurs dans un temps long et avoir le moins de turnover possible.
Et je t'ai parlé, effectivement, mesure de l'impact des initiatives de santé mentale. Aujourd'hui, comment est-ce que les entreprises ou les collectivités peuvent mesurer l'impact des initiatives de santé mentale qu'elles mettent en place? Alors, est-ce que Moodwork peut aider ou indépendamment de Moodwork, il y a d'autres solutions? Enfin, comment est-ce qu'on peut mesurer et se dire, OK, je suis sur la bonne voie, je m'améliore, j'ai des trucs à travailler, etc.
Bah ouais, je pense que la mesure est importante. Donc effectivement, que ce soit via des enquêtes annuelles ou que ce soit via des outils comme nous, on propose d'auto-évaluation qui permettent d'avoir une mesure un peu constante de l'état de bien-être des collaborateurs, ça c'est important. Nous, en tout cas, on propose aux entreprises, et comme on leur fait des rapports un peu trimestriels, ils peuvent avoir une vision de l'évolution aussi du niveau de bien-être et des facteurs de bien-être et de mal-être. Nous, ce qu'on essaie de mettre en avant aussi, c'est le nombre, par exemple, de personnes à risque détectées qui ont été pris en charge aussi, puisque ça, on peut mettre directement un ROI derrière, puisqu'on sait qu'on a évité tant d'arrêts maladie longs parce qu'on a identifié ces personnes-là à risque. Et après, nous, en interne, on a fait une mesure d'impact sur... ça, c'est un peu un scoop, puisqu'on ne l'a pas encore sorti, mais sur des utilisateurs de Moodwork VS, des non-utilisateurs.
Oui.
Et tu vois, notamment, on voyait que 63% des utilisateurs de Moodwork voient leur niveau de bien-être augmenter au bout de 6 mois.
D'accord.
Donc, ça, c'est important.
Okay.
Et on a une diminution très nette de plus de 10% des personnes, du risque d'être en épuisement professionnel des utilisateurs VS non-utilisateurs. Donc, comme quoi, tout ça pour dire que mettre en fait des actions en place a un impact sur les salariés. Et je pense qu'il faut aussi après récolter du feedback de la part des collaborateurs, c'est-à-dire de quelle manière ils ont utilisé les outils, est-ce que ça leur a été utile et à quel niveau, sur le plan pro, perso, et puis bien identifier aussi quelles étaient les problématiques. C'est pour ça que nous on les remonte aussi aux entreprises, parce que si in fine en fait c'est une majorité de problèmes aussi personnels, il faut aussi peut-être arrêter de... Enfin, il faut dédramatiser aussi en entreprise et pas dire que tout vient de la faute de la structure. Et donc, peut-être mettre en place d'autres actions qui vont du coup permettre aux collaborateurs, sur le plan personnel, de pouvoir s'améliorer.
Tout à fait, ouais. Parce qu'il peut y avoir des éléments très exogènes à l'entreprise en fait, qui amènent des fois un mal-être. Enfin, voilà, c'est fini le temps où tes problèmes, tu les laisses à la porte de l'usine.
Tout à fait.
Ça n'existe pas.
Et nous, on voit que beaucoup de nos échanges aujourd'hui avec nos spécialistes sont aussi sur des sujets perso.
Ouais. Ok, et qui impacte malheureusement la vie au travail, quoi.
Forcément, ce qui impacte la productivité, l'ambiance, la motivation.
Ok. Dans tes clients, est-ce que tu as des bonnes pratiques que tu auras envie de citer? Alors, tu peux citer le nom des clients de ces clients-là si tu souhaites. Ce qui m'intéresse, c'est les choses positives. Par exemple, l'avant, l'après Moodwork chez des clients, est-ce que ça les a fait grandir? Est-ce que vous avez vu des progrès chez telle ou telle entreprise qui le font pas du tout regretter d'avoir pris votre solution?
Je pense à une entreprise industrielle qui s'appelle Faya, qui est dans le BTP et l'énergie. Tu vois, quand on a été les voir, le DRH était totalement contre la mise en place d'un outil comme Moodwork et ne comprenait pas comment ces ouvriers et ces gars sur le chantier, comme ils disaient, allaient pouvoir utiliser la plateforme. Bon, ils sont clients depuis 4 ans maintenant.
D'accord. C'est pas lui qui t'a appelé.
Non, c'est les premiers ambassadeurs. Et en fait, autour de Moodwork, ils ont construit une politique de prévention. Donc en mettant après des actions, ils ont mis des actions aussi collectives qui étaient déjà en place, mais ils les ont renforcées, ils ont véritablement créé un nom aussi autour de toute cette politique. Et donc ça, le fait d'implémenter en plus Moodwork a permis vraiment de faire une construction globale individuelle et collective. Donc ça, c'était plutôt une belle réussite, je trouve. Et là, on a un client récent qui s'appelle Quinten, une plus petite structure, mais qui travaille dans l'IA, justement. On parlait d'IA tout à l'heure, et qui pour le coup, grâce à Moodwork, a vraiment vu que le sujet de la santé mentale était un sujet au cœur aussi, justement, de la performance et de la sensibilisation des salariés. Et tu vois, maintenant, ils font aussi de la sensibilisation auprès du CODIR sur la prévention des risques psychosociaux. Ils vont beaucoup plus loin aussi que juste la mise en place d'un outil. Donc, ouais. Vraiment des bonnes démarches et dans les dans d'autres chez d'autres clients, ouais, c'est généralement une bonne co-construction justement entre aussi tout ce qui peut exister et juste pas juste mettre un outil comme ça qui fonctionne.
Je reviens sur un sujet dont tu as parlé tout à l'heure parce que tu m'y fais penser, c'était la gestion du sommeil. On sait que pour être bien, le sommeil est important, l'alimentation est importante, le sport est important. Est-ce que vous venez aussi sur ces terrains de jeu, de l'alimentation, du sport, en sus du sommeil dont vous, ouais. Que vous abordez déjà?
Effectivement.
Et du coup, est-ce que je pourrais être en relation avec des coachs sportifs, avec des coachs, enfin des nutritionnistes, par exemple?
Alors ouais, on.
J'ai peut-être un peu loin, mais je me dis.
Non.
C'est des sujets importants hein, d'équilibre.
C'est des sujets importants. Alors la nutrition ouais. aujourd'hui, on pourrait avoir des nutritionnistes sur la plateforme. On en a pas, mais c'est plus à la demande des entreprises, puisqu'il y a certaines entreprises en fait qui se donnent une certaine barrière, limite, sur les sujets perso.
Okay.
Parce qu'elles considèrent que c'est bien, mais on peut pas aller sur tous les sujets.
Ouais, donc après, ça dépend. Hein, si la cantine à midi, il y a que des frites et des raclettes tous les midis, bon, à un moment, c'est leur sujet.
C'est clair. Non, c'est clair. Mais là, du coup, c'est un problème structurel. Ouais. Non, du coup, effectivement, ça, on peut en ajouter à la demande. Mmh. Par contre, on n'a pas forcément de contenu spécifique sur la nutrition parce que c'est hyper compliqué en fonction des régions en France, des régions en Europe.
C'est très vaste hein, comme sujet. Hein.
Ouais, c'est très très vaste. Et
régimes alimentaires.
Et même au sein d'une région, voilà, en fonction de ce qu'on mange. Mmh. Par contre, le sport, ouais, on a la possibilité aussi sur Moodwork, du coup, de pouvoir rajouter une option où on propose des cours de sport ou même qu'on propose des cours de méditation, de sophrologie,
d'accord,
etc.
Ouais, okay.
Ça, on fait avec un partenaire, notamment, bah, qui s'appelle TrainMe, qui est un bon partenaire. Qui a été
ouais, ça vous avez pas internalisé tous ces métiers?
Non, on
n'a
pas internalisé parce qu'il y a des gens qui le faisaient très très bien.
Ok.
Et autant s'entourer de bons experts sur ces sujets. Mais du coup, ça fait une solution complète. On a des clients qui du coup via Moodwork, les salariés ont accès à tous les outils sur la santé mentale et en plus tous les outils sur la santé physique.
C'est intéressant.
Et tout est centralisé via Moodwork. Ça permet d'avoir qu'une seule aussi application. Et du coup, d'avoir qu'un seul nom en tête pour les collaborateurs quand ils pensent bien-être ou bien-être au travail, ils vont directement sur Moodwork.
Ok. On a parlé de situations un petit peu plus compliquées tout à l'heure, effectivement, de détecter des personnes qui malheureusement vont pas bien, voire qui s'arrêtent. Comment est-ce que vous... Enfin, quel conseil tu donnerais à une entreprise pour soutenir les salariés qui ont dû s'arrêter un temps assez long, des fois pour un burn-out par exemple, et qui reviennent au travail. Voilà, comment est-ce que tu vois les choses sur ce point et est-ce que vous, du coup, ces publics, ces salariés qui ont eu, ou ces agents qui ont eu ces difficultés, vous les avez tracés et du coup, vous avez un programme peut-être adapté à leur retour. Je ne sais pas, peut-être que je vais trop loin dans ma vision de ce qu'on pourrait faire.
Pas du tout, pas du tout. C'est le cas. Mm. Le seul problème qu'on a avec les arrêts longs, c'est que normalement, le droit du travail impose que le salarié n'ait plus aucun contact avec quoi que ce soit de l'entreprise.
On est d'accord.
Et que du coup, il n'ait plus accès à Moodwork.
D'accord.
Donc, ce qui est un peu un problème parce que justement, un accès à Moodwork et un accès au psychologue et au suivi de Moodwork leur permet bah, justement de pouvoir.
Mais c'est-à-dire que vous bloquez l'accès à Moodwork si
c'est
je suis en
arrêt maladie. C'est les entreprises qui souhaitent le bloquer pour ne pas avoir de problème juridique derrière. Donc, nous, ce qu'on arrive à.
C'est un peu dommage. Là, pour
ce qui est dommage, donc nous, on arrive à détourner où en fait, ils n'ont peut-être plus accès à la plateforme, mais par contre, ils ont toujours accès au psychologue avec qui ils étaient en suivi, ce qui permet d'avoir un suivi un peu dans le temps long. Et qui permet justement de préparer le retour au travail. Donc nous, ce qu'on propose et ce qu'on met vraiment en avant pour ces personnes-là, c'est vraiment d'avoir un suivi physique, un accompagnement humain. Et donc de pouvoir vraiment en parler, de pouvoir lever l'appréhension, de pouvoir parler de l'après, de pouvoir être suivi même peut-être deux fois par semaine au départ, par un spécialiste sur le sujet. Pour pouvoir se décharger et aussi avoir des bons conseils et avoir un soutien. En fait,
c'est
important, c'est d'avoir un soutien.
Il y a du temps partiel thérapeutique souvent, donc il y a aussi une période où on reprend le travail petit à petit, on va dire.
Mais du coup, intéressant d'avoir tout le temps, c'est d'avoir la même personne qui nous suit, du coup.
Bien sûr.
Parce que du coup, on peut aussi mettre en avant les améliorations, mettre en avant du coup les différentes choses qui permettent aussi aux collaborateurs de se ressentir bien. Parce qu'il y a aussi un grand vide pour ces personnes-là quand elles reviennent au travail, c'est la confrontation au regard des autres aussi, au fait de voir que l'entreprise a avancé et que tous les projets ont avancé, mais que lui n'était pas là forcément. Donc l'idée, c'est aussi vraiment de pouvoir rassurer la personne.
Ok. Le temps tourne. Je vais venir sur la dernière partie de notre échange. Comment tu vois évoluer le sujet de la santé mentale au travail ? Non, c'est pas facile comme question. Hein. On n'est pas,
non.
Tu n'es pas Madame Irma, moi non plus.
Non, ouais, ouais.
Mais tu as des signaux faibles, tu détectes des choses, des besoins, des questions peut-être de tes clients.
Malheureusement, aujourd'hui, la situation ne va pas forcément très bien. Ce qui est assez bizarre, c'est que les entreprises n'ont pas forcément les budgets pour s'occuper du sujet vraiment comme il faudrait. Puisque, comme on a parlé du contexte économique au tout départ, donc il y a certaines entreprises qui ne peuvent vraiment pas le faire. Après, nous, on a assez perçu, en tout cas, je perçois la prise en charge de la santé mentale au travail aujourd'hui de cette manière, c'est avec une collaboration avec les mutuelles ou les assurances.
Oui.
Qui, jusqu'aujourd'hui, étaient quand même beaucoup dans le curatif, en tout cas dans payer des soins à des gens qui n'allaient pas bien ou payer les arrêts maladie des collaborateurs, enfin les supporter. Aujourd'hui, on constate quand même que les mutuelles se sont un peu réveillées sur ces sujets-là.
Je pense au groupe Vif, par exemple, que je connais bien, qui est plutôt actif sur ces sujets-là, par exemple.
Bah, tu fais parler de groupe Vif.
Alors, on n'a pas préparé, honnêtement. Ouais, les gens vont dire, c'est piloté. Ce podcast est sponsorisé par le groupe Vif. C'est sponsorisé par personne. Mais d'accord. Ouais. Parce que je les trouve assez actifs, en tout cas, moi, dans leur.
Sur leur feuille de route, effectivement.
D'accord.
Et nous, on a signé un partenariat de distribution justement avec eux sur le sujet de la santé mentale. Donc, ils ont testé plusieurs solutions. Ils nous ont sélectionné pour accompagner justement leurs entreprises clientes et leurs mutuelles en interne sur ce sujet de la santé mentale. Mais comme quoi, leur objectif est vraiment à la fois de diversifier leurs services pour se différencier des autres mutuelles et des autres offres, mais aussi de venir de plus en plus sur la prévention pour justement essayer de limiter les risques avant qu'ils arrivent et faire en sorte aussi, pour eux, l'objectif est aussi de réduire des coûts. Mais surtout,
La prévention a peut-être un coût, mais peut-être un coût moindre que de soigner les conséquences, malheureusement. Quoi.
Tout à fait.
Donc ça, c'est un sujet que tu vois. Et du coup, est-ce que Moodwork va continuer à évoluer sur tous ces sujets ou offrir d'autres aspects liés au bien-être au travail ?
Oui, on étend nous aussi, comme je te disais, pas mal notre scope aussi à des sujets plus perso. Donc, on essaie d'inclure des sujets sur la parentalité, des sujets sur le couple parfois aussi. L'idée étant de aussi se rapprocher de sujets perso qu'on peut déceler. Nous, on continue à améliorer notamment avec des programmes de développement personnel aussi toujours plus poussés, qui comprennent encore plus la problématique et la situation des salariés. Et s'inclure aussi de plus en plus dans les politiques RH globales. Donc nous aussi, notre objectif, c'est de pouvoir, par exemple, la donnée qu'on a, pouvoir la lier aux outils SCRH et pouvoir faire des liens de corrélation avec l'absentéisme, avec dans telle ou telle équipe le turnover, etc. Donc l'objectif, in fine, d'arriver à une solution globale sur tous les sujets où on vient certes accompagner l'individu, mais aussi proposer des solutions au collectif avec aussi de la donnée en fonction de l'usage qu'il y aura eu sur Moodwork.
D'accord. C'est multilingue, Moodwork ?
En français et en anglais aujourd'hui.
D'accord.
Et l'accompagnement humain est en beaucoup d'autres langues.
D'accord.
Mais en tout cas, la plateforme en tant que telle, ouais.
Oui, parce que je pense à des DRH qui, effectivement, ont des entreprises, peuvent être français, mais on peut avoir des filiales à l'étranger et se disent, j'ai l'implémenté sur mes usines françaises et j'ai une usine en Espagne, par exemple. Ce serait dommage de pas l'inclure. Donc pour l'instant, c'est plutôt français-anglais.
C'est plutôt français-anglais, possibilité de faire dans d'autres langues, mais il y a toujours une adaptation aussi culturelle. C'est pareil.
Parce que c'est pas des sujets simples. Au-delà de l'aspect linguistique, il y a des sujets culturels.
C'est pas des sujets simples et surtout aussi, c'est la dimension du travail n'est pas vue partout de la même manière. Le droit du travail aussi. Donc en fait, on est obligé d'adapter forcément au contexte un peu de.
Mais culturel. Tu vas quand même, avec Moodwork, vous allez un peu à l'étranger quand même.
Ouais.
Okay.
On est présent en Belgique, en Suisse, dans des filiales aussi à l'étranger. On était pas mal aussi aux États-Unis dans certaines filiales où on utilisait l'anglais. On utilise aussi l'anglais dans toutes nos filiales, en fait, toutes les filiales d'entreprise qui sont un peu à l'étranger, qui ont comme langue parlée dans l'entreprise l'anglais.
D'accord. Du coup, tu reviendras jamais travailler dans le monde de la finance ?
Non, je pense pas. Je ne pense pas, non. Non.
C'est atypique quand même, parce que j'en pense à ce sujet.
Oui, c'est très atypique, mais on apprend beaucoup de choses sur soi aussi.
de passer de cet univers très financier, pour le coup, basé sur l'argent, à un univers basé sur l'humain. Même si tu es chef d'entreprise et je te le souhaite que ton entreprise elle prospère, mais au premier abord, t'es pas venu là-dessus, t'es pas venu sur un sujet. Enfin, pour gagner ta croûte, tu fallait mieux rester dans le monde de la finance au départ, je pense.
C'est clair.
Au départ, en tout cas.
Je confirme. Ouais.
ça c'est à peu près certain. On a parlé de l'IA. C'est un sujet vous regardez pour Moodwork ou vous dites c'est attention parce que l'IA aujourd'hui elle a ses limites, ses biais.
Attention, oui, sur l'IA ne va pas résoudre tous les maux. Et clairement, notamment sur la prise en charge, et nous, on considère que la prise en charge humaine est très importante, en tout cas pour l'instant. Heureusement, d'ailleurs, qu'on n'est pas pris en charge que par des robots.
Et je l'espère, honnêtement.
Après, l'IA permet plein de choses, hein, sur notamment, comme je disais, sur l'identification, par exemple, ou arriver à prévoir certaines situations à risque. Grâce à l'IA, on peut prévoir ce genre, on va pouvoir travailler sur ce genre de choses, donc détecter des signaux faibles, même avant que la personne soit déclarée comme à risque, détecter certaines situations. Donc ça et aussi sur le contenu, on pourra aussi faire un gros travail, un travail de personnalisation au plus proche de la situation réelle du collaborateur.
Ok, voilà. Très très clair. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose ? Un sujet que j'ai pas abordé, où tu t'es dit, tiens, en préparant ce podcast, j'aurais envie de parler de ça.
T'as été assez exhaustif. Hein,
c'est vrai ?
Ouais, bravo.
Ok. Bon, j'ai un peu préparé. Mais... est-ce qu'il y aurait une anecdote que tu pourrais nous raconter ? Quelque chose qui t'est arrivé, une anecdote professionnelle, hein, j'entends, que tu n'as jamais dite, au micro, dans une vidéo, dans une interview, liée à un client, un prospect, un collab, un candidat d'ailleurs aussi, peut-être, qui a candidaté pour intégrer Moodwork.
Ça va concerner, écoute, mon premier rendez-vous commercial quand on avait créé donc la plateforme Moodwork. Donc à l'époque, imagine-toi, on crée une plateforme pour accompagner les salariés dans leur démarche de santé mentale en 2018. Autant dire qu'on n'avait pas beaucoup de prise, quoi. Les gens comprenaient pas vraiment ce qu'on faisait.
Le téléphone sonnait pas beaucoup.
Non, ça sonnait pas beaucoup. Donc, écoute, hein, au départ, ça passe par des mises en relation.
Bien sûr.
Donc, un de mes investisseurs nous met en relation avec une entreprise dans l'énergie. On a la chance de rencontrer directement c'était une femme PDG du groupe avec son DRH. Donc, un rendez-vous quand même aujourd'hui. On paiera cher pour pouvoir le faire.
Majeur. Hein.
Et là, dans le rendez-vous, elle commence à nous parler, etc. Et on notait sur notre feuille avec mon associé, on était « Ah mince, elle parle de CHSCT, qu'est-ce que c'est CHSCT ?»« Merde, elle parle des OS, qu'est-ce que c'est les OS ?» Et donc, on s'est ressorti avec tous les acronymes, en fait, du monde des RH. Hein,
que tu connaissais pas très bien.
Qu'on aurait dû connaître et qu'on connaissait absolument pas. Du coup, on s'est dit « Bon, avant de refaire des rendez-vous commerciaux, on va un peu se renseigner sur comment ça fonctionne en interne dans les grandes entreprises. » Donc, on est un peu passé pour des bêtas, mais finalement, on a signé ce client. Donc,
et en plus,
l'histoire est bien finie, mais... bien fini, mais au départ, on a eu un peu une petite goutte, ouais, vraiment. Mmh. Parce que surtout les acronymes et surtout l'organisation aussi un peu du monde de qui fait quoi, qui a le pouvoir.
Oui.
On se rendait pas compte aussi de l'impact des organisations syndicales sur ces sujets de bien-être au travail, où nous, on pensait que c'était plus un côté revendication, vent debout ou autre, ou défense en fait des droits des salariés, mais pas forcément sur le bien-être directement. Mmh. Donc c'était assez marrant.
Donc en fait c'est une bonne école RH en fait.
C'est une très bonne école RH et c'est pour ça qu'après je suis retourné sur les bancs de la fac.
Tu pourrais finir des RH en fait.
Est-ce que j'aurais la passion, je sais pas. Peut-être aussi.
Est-ce que tu aurais des personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast qui peuvent être comme toi des hommes ou des femmes fondateurs d'une solution RH ou des hommes et des femmes qui sont au sein de la fonction RH et que tu trouves intéressant, inspirant.
Alors écoute, on a un nouveau client d'une entreprise qui s'appelle Benebono, qui fait de la récupération de légumes moches pour en fait éviter le gaspillage. Je te conseille leur DRH qui s'appelle Christelle, qui est en plus très influente dans le monde des RH et qui est très intéressante et que tu devrais du coup interviewer.
Alors je te confirme qu'elle est prévue sur ce podcast. Elle n'est pas interviewée à l'heure où je te parle, mais elle est l'interview est planifiée.
Pas magnifique.
Ouais. Effectivement, tu n'es pas le premier à me la conseiller et je la suis aussi sur LinkedIn. C'est vraiment une chouette femme. En tout cas, voilà, moi, j'ai hâte d'échanger avec elle. Je mettrai de toute façon son profil LinkedIn dans le résumé de l'épisode pour les personnes qui veulent ensuite, déjà s'intéresser à elle.
Si tu n'as jamais exploré la santé physique avec le sport, Trainmi, c'est assez intéressant avec son fondateur Gatien. Qui en plus a une histoire assez intéressante puisqu'ils se sont fait racheter par Decathlon.
Ah oui, donc
une vision un peu holistique du sport où il va te parler à la fois des équipements jusqu'aux cours dans les entreprises. Donc je pense que ça peut être intéressant.
Ok, merci. Merci pour ces deux idées que je trouve hyper intéressantes. Est-ce que tu écoutes des podcasts, toi ?
Eh bien, écoute, j'ai pas beaucoup le temps d'écouter des podcasts. Je passe plus mon temps à lire.
Ouais, qu'est-ce que t'aimes lire si t'es moins podcast ?
Je lis tout, mais qu'est-ce que j'ai lu en ce moment d'inspirant?
Tu lis pas que des bouquins sur les entrepreneurs?
Pas du tout. Okay. Mais tu vois, là, en ce moment, on peut considérer que c'est un entrepreneur. En ce moment, je lis Napoléon de Max Gallo, tu vois, qui est en 4 volumes de 4 ou 500 pages.
Donc, tu n'as pas le temps d'écouter les podcasts, mais tu as le temps de lire des livres qui font quand même des milliers de pages.
Ouais, mais ça aère plus l'esprit, je trouve, que l'imagination. L'imagination.
Ça, c'est ton moment off, en fait.
C'est mon moment off. Ouais. Les podcasts, effectivement, j'en écoutais pas mal quand je faisais plus de la route.
Ouais.
Et maintenant, comme je suis à Paris, je fais moins de route. Et non, je recommande quand même ce livre sur Napoléon, qui, même pour les entrepreneurs, est très intéressant, puisqu'on voit la résilience et la force de cet homme qui a gouverné la France un jour.
Bon, merci pour cette suggestion. Si on a envie de te contacter, Benjamin...
Rien de plus simple sur LinkedIn. Hein.
Ouais, Benjamin Brion, on peut te contacter.
Benjamin Brion.
Tu réponds.
Je réponds avec plaisir.
T'es un gars bien éduqué qui répond à tout le monde.
Si vous n'avez pas LinkedIn, benjamin@boudoir.com.
Ça marche aussi.
Ça marche aussi.
Merci. Merci beaucoup, Benjamin, pour
ton invitation,
ton expertise et tous tes conseils aussi que tu as pu donner. Merci à tout le monde. À bientôt.
Merci. À bientôt.
C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcasts ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.